Maribine.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Le Port-Musée de Douarnenez propose actuellement une rétrospective de Stéphane Lavoué, photographe portraitiste renommé, qui aime avant tout s'approcher au plus près de ceux que souvent l'on ne voit pas, ou en tout cas que l'on ne photographie pas, ceux qui travaillent avec leurs mains et tout leur corps. À l'occasion d'une résidence à Douarnenez, il nous propose une série de portraits. Bonjour Stéphane Lavoué.
Bonjour.
Alors vous vivez depuis 2015 en Bretagne, après avoir vécu entre l'Allemagne, l'Afrique et être né dans l'Est de la France. Pourquoi la Bretagne? Pourquoi le pays bigoudin?
Alors la Bretagne d'abord parce que j'ai un grand-père originaire de Plébin qui a grandi et qui a vécu une partie de sa vie. Il s'appelait Jean Cor. Le pays bigoudin, c'est par alliance parce que ma compagne Catherine Le Gall, avec qui j'ai réalisé certaines de ses séries photographiques, elle est originaire de Pamar, de Kéréti en particulier, père et mère.
Est-ce qu'il y a des choses particulières qui vous attirent dans les visages de ces Bretons?
Je pense que le territoire sur lequel on habite a une influence sur sa physionomie. Et les territoires un petit peu rudes comme ça, le littoral bigoudin, les monts d'Arrée, le Finistère en général, ont façonné des visages, ont sculpté des visages. Et c'est ce que j'essaie de représenter.
On y voit la vie rude des marins, par exemple?
Oui, on voit quelques marins, pas que. On y voit aussi beaucoup de gens qui travaillent du poisson dans les usines, les conserveries, les chantiers. J'aime photographier l'homme et la femme au travail dans un univers industriel. Je suis originaire, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai travaillé en usine quelques années et c'est certainement mon tropisme. J'aime y retourner, j'aime observer les gens et je suis fasciné par ceux qui arrivent à travailler tous les jours, toutes les semaines au même poste, ce que moi j'ai pas du tout réussi à faire quand j'étais ingénieur.
Alors oui, il est drôle votre parcours parce que vous êtes devenu un petit peu photographe par hasard en fait. Vous aviez un diplôme d'ingénieur et c'est au Brésil que vous découvrez les photographies de Salgado. Et là, c'est le choc.
J'étais déjà en quête d'un mode d'expression que mon métier d'ingénieur n'allait vraisemblablement pas pouvoir m'offrir. J'étais frustré de ne pas pouvoir être un petit peu créatif. Je suis mauvais en dessin. L'écriture, c'est pénible pour moi. Et j'avais découvert la photographie parce que je trouvais qu'il y avait un apprentissage technique qui se mariait bien avec ma formation d'ingénieur. Et donc j'ai appris la photographie au même moment où je suis parti vivre en Amazonie pour mon premier boulot d'ingénieur. Et quand je suis arrivé en Amazonie, j'ai vu des photos en noir et blanc placardées sur les murs en bois de certaines favelas. Et la puissance de ces images m'a scotché et je me suis dit que ça devait être un beau métier que de pouvoir transmettre autant d'émotions en une seule image et avec très peu de couleurs en tout cas. Et donc progressivement, j'ai décidé d'abandonner mon métier d'ingénieur pour essayer de me consacrer entièrement à la photographie. À l'époque, je ne savais pas du tout dans quelle direction je voulais aller. Et c'était surtout un prétexte pour continuer à voyager, à découvrir le monde. Et puis finalement, rapidement, je me suis spécialisé en portrait et j'ai travaillé essentiellement à Paris. En abandonnant l'idée du voyage photographique.
Alors il y a quand même la ville de Douarnenez qui vous a proposé un beau voyage, une résidence à Douarnenez en 2019. Comment avez-vous conçu cette résidence?
Alors j'ai beaucoup de mal à anticiper, à organiser, à préparer. Je préfère m'immerger, passer du temps sur le territoire de ma résidence et c'est ce que j'ai fait à Douarnenez. D'ailleurs, j'alternais de résidence au même moment, fin 2019, début 2020, tout l'hiver. J'étais entre les Monts d'Arrée, une résidence pour les Champs Libres à Rennes et le Musée de Bretagne, et puis ici à Douarnenez, à l'initiative du Centre des Arts et soutenu par le Port Musée à Douarnenez. Je me suis immergé dans la ville, j'ai marché, j'ai pris des cafés, j'ai regardé les gens passer. Et puis, comme à chaque fois, curieux, j'ai envie de pousser des portes. Et quand on est dans une zone industrielle, pas très intéressante visuellement, en poussant une porte, on découvre un monde. Et c'est ce que j'aime dans ce métier de photographe, c'est de pouvoir faire le curieux, avoir un prétexte pour pousser les portes et aller voir ce qui se passe derrière. Là où on n'est pas censé rentrer, quoi.
Vous êtes très curieux, en fait.
C'est d'essayer de découvrir la manière dont le monde fonctionne. Je mange du thon en boîte. J'ai envie de savoir qui a mis ce thon en boîte et comment il l'a fait et dans quelles conditions. Je regarde passer un bateau. Je suis curieux de savoir qui l'a fabriqué, quelles sont les mains qui sont venues mettre de l'étouffe pour qu'il soit étanche. Voilà, c'est une curiosité du monde qui m'entoure. Et des gens qui font ces métiers que je ne ferai jamais.
L'exposition est très intéressante parce que ça reprend quasiment l'ensemble des travaux que vous avez pu réaliser. Il y a les portraits de presse, il y a les photos sur les travailleurs de la terre et puis la résidence que vous avez faite à Douarnenez. Et sur cette partie de résidence, comment vous avez sélectionné, quels ont été vos critères pour faire le choix des photos qui sont présentées ici ?
C'est des critères.
Il n'y a pas que des portraits, il y a beaucoup de il y a des paysages, il y a des situations, des décors.
C'est un peu le même principe qui régit mes séries photographiques ces dernières années. Depuis le travail que j'ai pu mener aux États-Unis dans l'état du Vermont, ensuite dans le pays Bigoudin, à Douarnenez ou dans les Monts d'Arrée, c'est que je m'immerge dans un territoire. Et j'essaye d'en tirer un univers fictionnel. Et comment je m'y prends ? Je centre mes photographies sur l'humain, sur le portrait, qui est mon articulation principale, la colonne vertébrale de mon travail, la relation à l'autre. Et ensuite, je lui associe des natures mortes, des paysages, pour essayer de reconstituer un contexte fictionnel, qui va permettre de créer un récit. En fait, comme vous avez pu le voir, les images sont associées par blocs de 3, 4, 5 images. Et chaque image communique avec celle d'à côté. C'est un peu le principe du montage en cinéma, ce qu'on appelle l'effet Kuleshov. C'est comment, quand on associe deux images, on modifie le sens de l'une et de l'autre et on crée un récit qui est l'association de ces deux images. Et donc je pars d'un territoire qui existe, les Monts d'Arrée, Douarnenez évidemment, une base très documentaire, et puis j'essaye de faire émerger une fiction, un territoire fictionnel qui me ressemble, enfin, en tout cas tel que j'ai perçu le territoire.
Alors on dit beaucoup que, et je vais redire une banalité, vous travaillez beaucoup le clair-obscur, vos photos sont magnifiques parce qu'on dirait presque des tableaux, enfin j'imagine on vous l'a beaucoup dit, mais c'est vrai, comment vous travaillez la lumière, tout se fait à la prise de vue, tout se fait au tirage, c'est un subtil mélange des deux.
C'est avant tout le travail de la lumière à la prise de vue, j'ai travaillé pendant 15 ans à Paris, comme photographe pour la presse nationale, internationale, en reportage, mais aussi beaucoup en portrait. Quand on est en portrait, on est projeté le matin dans un appartement haussmannien, l'après-midi dans un hôtel particulier, et avec l'obligation de réussir à fabriquer une bonne image, quelles que soient les conditions de lumière, quelle que soit la bonne volonté du personnage à photographier. Et ces techniques, cette gymnastique, cette expérience que j'ai pu acquérir, je la mets au profit de mes photographies maintenant et de mon travail plus personnel. Et j'ai abandonné la lumière artificielle. En tout cas, je ne rajoute plus de lumière dans les portraits que je peux réaliser. Je positionne les gens que je veux photographier dans la lumière telle que je la trouve. Alors, c'est effectivement pas forcément la lumière que vous voyez vous. Moi, j'en vois une autre. Je la cherche dans les recoins, derrière les portes. Une lumière particulière, un mélange entre une ampoule et une fenêtre, la lumière d'un reflet, quelque chose qui va qui va donner une certaine épaisseur à l'ambiance et créer, comment dire, s'extraire progressivement du réalisme pour aller vers quelque chose de plus cinématographique.
Mais après, vous retravaillez l'image au tirage, j'imagine, quand même.
Bah oui, c'est
que ce numérique maintenant.
Alors, moi, je fais du numérique, mais que ce soit en numérique ou en argentique, le passage par le développement est une étape cruciale dans la manière dont on va guider le regard du spectateur, en fait. Il faut faire converger le regard vers là où ça m'intéresse, voilà. Et donc, il y a une interprétation du fichier. Comme en argentique, on a un négatif qu'il faut tirer en interprétant les différentes valeurs du noir et blanc, par exemple, les différentes valeurs de gris. En numérique, l'appareil photo délivre un fichier brut, un fichier raw, ce qui veut dire cru en anglais, hein, un fichier cru, qui lui a assez peu d'intérêt visuellement. Il est tout plat, il a toutes les valeurs que peut lui fournir l'appareil photo, le capteur, mais il a peu d'intérêt visuel. Donc il faut l'interpréter, il faut faire converger tout ça vers une image qui soit lisible et percutante, quoi. C'est les mêmes principes de développement qu'on peut avoir en argentique que j'utilise en numérique. Dos mares perigosos, meu irmão, minha mulher, me dê a mão. Eu não sei de muito não, eu não trago a solução. Minha grandeza. Minha grandeza. Alors, je photographie jamais en plein soleil. Mes ciels sont rarement bleus, mais il y a de la couleur, plutôt pas mal de couleurs. Mais c'est des couleurs qui sont assez douces, qui sont pas très intenses, avec des dominantes assez chaudes quand même.
Pour vous, c'est quoi une bonne photo ?
C'est une photo qui me plaît avant tout. Voilà, c'est une photo qui me plaît, c'est une photo que j'ai envie de regarder, c'est une photo qui passe l'épreuve du temps. Et cette épreuve-là, on n'est jamais sûr de la réussir.
Comment ont réagi les douarnenistes quand ils ont vu votre travail là, sur Douarnenez ?
Je suis assez mal placé pour vous le dire, puisque la convention sociale fait qu'on a toujours du mal à dire à un artiste qu'on n'aime pas son travail. À plus forte raison quand on est modèle représenté dans l'exposition. Donc je ne saurais jamais exactement ce que pensent les gens de mes images. En tout cas, j'ai pas eu à me plaindre des retours, mais je ne saurais jamais vraiment ce que les gens pensent. Hélas.
Parce que c'est très stylisé. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été photographiés de cette façon-là. Je pense aussi au portrait de la première salle. Ça a forcément suscité des réactions chez eux particulières, parce que c'est pas un portrait banal.
Non, c'est une interprétation de chaque personnage, grâce à la lumière, grâce à la manière dont je les dirige, donc je positionne les corps. Mais j'espère qu'à chaque fois, dans chacune des images, on y voit ce qui m'intéresse le plus, c'est à la fois de la bienveillance et de la dignité. Parce qu'il est assez facile d'utiliser la caricature en photo. Et j'essaye, moi, dans l'expression des modèles que je photographie, de tendre vers une certaine neutralité du regard. Ils ne sont ni joyeux, ni très en colère. Il y a une forme de neutralité chargée, voilà, qui permet à chaque spectateur d'y trouver son chemin, d'avoir sa propre interprétation de l'émotion que dégage le modèle. Thank you.
des heures.
En dehors de Salgado, vous avez d'autres références de photographes?
Alors, j'ai été très influencé par la photographie américaine, à commencer par Edward Curtis, qui, à la fin du 19e, début 20e, a photographié les Indiens américains dans les réserves, dans l'Ouest américain. J'aime beaucoup le photographe de Magnum qui s'appelle Alex Sott, qui travaille essentiellement sur son territoire aux États-Unis, à la chambre photographique. Je suis un grand fan de Richard Avedon, qui a publié un livre monumental qui s'appelle American West. Il est parti avec un camping-car photographier les gens qu'il croisait dans l'Ouest américain dans les années, je pense que c'est 70-80. À la chambre photographique grand format, une 20-25, sur fond blanc. Un travail qui a réussi à passer l'épreuve du temps avec succès.
Alors dans la première salle, l'équipage, il y a un petit dispositif sonore qui est très sympathique. Votre compagne a enregistré quelques voix et donc on flash un QR code et on a ce petit fichier audio.
Mon boulot, technico-commercial dans le matériel de pêche, en hydraulique. Ce qui est treuil, enrouleur, appareil à gouverner. Tout ce qui sert à remonter le train de pêche, en fait. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas aller en mer. C'est des organes vitaux pour que le bateau aille bien. C'est très très dur, parce que quand il y en a des pertes de bateau, on est toujours à se demander si on n'est pas un peu responsable sur la perte du bateau. Même si on n'est pas responsable, ça travaille quand même la personne. On arrive à savoir avec des enquêtes, mais pendant tant que l'enquête n'est pas bien définie, on a toujours un doute.
Je venais sur Pamar pour boire un petit café le dimanche. J'aimais bien le Nautilus et du coup, à force de venir boire des cafés, je me suis posée dans le coin. Il y a des jours où je me dis, je suis censée servir des cafés et je fais pas psy, je fais pas assistante sociale, mais rien qu'une écoute, des fois, ça rend bien service. Et moi, c'est vrai que j'aime bien qu'on m'écoute aussi quand j'ai envie de me plaindre. Donc. Il y a des jours où t'es, surtout en hiver, t'es une éponge à énergie. Si t'es une éponge à énergie en hiver, c'est là que tu te rends compte que le temps joue vachement sur le moral des gens, parce qu'ils arrivent tous en râlant. Comme on a une partie de la clientèle qui est assez âgée, il y a tous les bobos qui vont avec l'âge. Alors, j'ai un problème au pied, après j'ai une opération de la main, après j'ai l'épaule qui déconne, puis le dos. Et quand je rentre chez moi, j'ai mal partout.
Comment vous est venue cette idée?
C'est un travail conjoint qui est issu des histoires que nous racontait sa grand-mère, Monique Le Gall, qui avait travaillé à la criée à Saint-Guénolé, qui était épicière et qui côtoyait beaucoup de monde dans l'univers de la pêche à partir des années 50 jusqu'à son décès en 2018. Monique nous racontait et nous faisait vivre le pays Bigoudin tel qu'elle avait vécu. Elle avait un talent de conteuse. Hélas, quand elle a perdu un petit peu de ses capacités de mémoire intellectuelle et qu'elle n'était plus en mesure de nous raconter les histoires, on s'est dit que c'était à nous d'aller récolter de nouvelles histoires. Et donc on a installé nos dispositifs de son et de photo là où se racontent les histoires en Pays Bigoudin, c'est-à-dire dans les bistrots.
Ça, c'était un beau métier, le ton, la ligne. On voyait plein de choses sur l'eau, quoi. C'était super à observer, quoi. Les bandes crevettes, le poisson qui sautait, les tortues. Ouais, puis les bandes crevettes, c'est super belle couleur. C'était plus ou moins orangé. Ah ouais, c'était beau. Et le thon, il était friand de ça. Donc quand on a envoyé des bandes crevettes, on se dit, ça y est, c'est bon, il y a le poisson par là. Ouais, il y avait des dorades coryphènes, il y avait des gros poissons d'ailleurs qui étaient excellents, qu'on pêchait comme ça pour assurer le casse-croûte aussi, parce qu'on n'avait pas de frigo, on n'avait rien, donc les vivres, les provisions étaient dans la glacière, dans la glace, donc si on trouvait un bon poisson, ça faisait du bien aussi, changer un peu le menu. Ouais. commence à évoluer sur l'eau. Là, c'était silence, chacun. Celui qui trouvait le poisson. Puis, hop. Il y a eu des bateaux de partout. Hein. Il y a eu des bateaux de différents ports, hein, de Lorient, de Randonnée, de ouais, Concarneau, un peu partout. Quoi. Tous ceux qui faisaient le thon, ils se retrouvaient au même endroit. Quoi. Ouais. Et puis, on reconnaissait. Rien qu'à la forme du bateau, on savait de quel port il dépendait. Quoi. Parce que chaque port avait ses bateaux, mais avec des formes bien particulières, au chantier.
Et donc moi, j'ai monté mon studio photo, et Catherine, ma compagne, a mené des entretiens avec chacune des personnes que j'ai pu photographier, pour qu'ils nous racontent leur rapport au territoire, leur rapport à la pêche, leur rapport à la mort aussi, qui est assez important à Pamar. Et l'idée, c'était que évidemment les deux soient complémentaires. Mes images sont décontextualisées, il n'y a pas de fond, on ne sait pas où on se trouve. Et puis, dans les récits des gens, à travers leur voix, leur silence, eh bien, on a tout le paysage qui se dessine autour. Et on vit une traversée du pays Bigoudin à travers ces gens-là, quoi.
Pas Bigoudini, moi je suis cinglé, je suis pas Bigoudin. Parce qu'il y a Bigoudin, ouais. C'est même plus Bigoudin qu'on est. Parce qu'ici, en général, entre les gens de Saint-Guy et de Kiriti, parfois il y avait des heures, alors entre celui de Guil et puis tout ça, alors, tu sais, un Bigoudin. Moi, c'est un grand mot aussi pour dire beaucoup de choses, mais ici, c'est plutôt tous les clivages qu'il y avait. C'est pour ça Bigoudin, ici, je ne sais pas ce que ça veut dire, Bigoudin. Quand on disait, nous, on était de Saint-Guy, on a chacun son nom pour qu'on veut faire mal à l'autre, quoi. Hein. On est Kiriti, on est chasse Kiriti. Ça faisait, peut-être un chasse Kiriti. Ça faisait mal à ce Kiriti, quoi. Chasse Kiriti tout. Dès que je suis marché, j'allais à la grève, et puis c'était ça, aller godiller, aller pêcher à la ligne, pêcher des anguilles, pêcher des gobies, pêcher tout. C'était ça le dada, hein. Ah ouais, il y avait que ça, hein. Mais je sais pas pourquoi je suis pas allé en mer, je trouvais que j'étais malade. Quand j'allais en mer, j'étais malade. L'été, quoi, pendant les vacances scolaires, j'allais en mer. Pour travailler, comme on dit. J'ai morflé. J'étais malade. Ah ouais. Peut-être j'aurais été marré autrement, hein, mais bon, après, ça m'a. Et j'ai voulu repartir en mer après, avec un collègue, comme ça, pour voir s'il y avait toujours le mal de mer. Ben, ça va louper, hein. J'étais toujours malade en mer. Attends, j'aimais bien quand j'étais en mer. Mais quand t'es malade, maintenant. Ben non, il n'y avait que ça pour nous, hein. Et puis tout petit, il n'y a eu que ça, la mer. Hein. Il n'y avait que ça.
Y a-t-il une question qu'on ne vous a encore jamais posée et que vous aimeriez qu'on vous pose?
Alors là, une bonne question. Non, je peux réfléchir et je vous enverrai un message. Mais...
Merci.
Je vous en prie, merci.
Minha grandeza, minha certeza mutável, inadiável coração, que sonhos o sonho dos mais perigosos. Inadiável coração, em doido horizonte batás, numeroso minha grandeza.